Ça fait maintenant 100 ans que la SAC a été créée. Il y a un documentaire, puis je vous l'ai dit, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir un peu avant tout le monde, qui est vraiment fascinant, qui s'appelle La SAC, 100 ans d'histoire. Ça va être présenté le samedi 4 septembre à Historia. Et l'animateur, c'est Francis Redé. On ne peut pas tomber sur quelqu'un, je pense, de mieux placé que lui pour animer une émission comme celle-là. Il est au téléphone. Allô, Francis?
Salut Patrick, bonjour Émilie, bonjour Michael, bonjour aux auditeurs du 98.5.
Parle-moi de ça, quelqu'un qui est encore une fois dynamique et emballé, mais c'est pas une surprise, Francis.
Alors Patrick, je te dis que c'est pas moi qui a 100 ans, hein, c'est la SAQ.
Sinon, je t'aurais demandé ta crème de jour, mon Francis.
Oui, d'accord.
mais cela étant dit, Francis, pour vrai, tu sais, sur le coup, on dit « OK, oui, bon, un documentaire, 100 ans de la SAQ, ça va s'en... » Mais juste de voir l'évolution du goût des Québécois, des modes, des tendances des Québécois, c'est fascinant d'analyser tout ça.
Fascinant, puis zéro, parce que quand on fait les 100 ans de la SAQ, parce que ça a commencé en 1921 avec la commission des liqueurs, hein, ça s'appelait au départ la commission des liqueurs, ça, à quelque part, là, c'est à l'image de l'évolution des Québécois, OK, vraiment, avec un délai. Autrement, par exemple, jusqu'en 1970 à peu près, là, il n'y a rien qui bougeait. Rien. C'est comme si 1921 puis 1965, c'était la même chose. Ça ne bougeait pas. La seule nuance, c'est que nous, le délai, c'est que les Québécois, là, avec la Révolution tranquille, ça a commencé plus vite. Les habitudes liées à plein de choses, exemple, la religion, ça a bougé dans les années 60. La SAQ, l'alcool, notre lien avec l'alcool, c'est 1971 que ça a vraiment bougé, parce que c'est en 71 qu'est apparu, tu le sais, là, tu as vu le documentaire, la première, le premier magasin libre-service. Donc, avant ça, là, t'allais devant des barreaux, t'avais quelqu'un derrière des barreaux, puis il dit « qu'est-ce que vous voulez avoir? » Puis là, tu dis « je veux un gin », t'avais le droit à une bouteille d'alcool,
oui.
Au départ, une bouteille d'alcool seulement, pas deux, pas trois, pas l'alcool eau de vie, là, le fort qu'on appelle. Puis du vin, mais tu ne voyais pas les bouteilles, tu voyais rien. Alors en 71, tout à coup, on ouvre, on dit aux Québécois, bon ben là, vous avez la possibilité de choisir parmi différentes bouteilles et regarder les bouteilles, vous avez le droit de regarder les bouteilles,
oui,
ça défend.
Avant ça, c'était comme une distribution aux consommateurs, mais pour l'alcool.
Mais il y a quelque chose de la SQDC. Aujourd'hui,
t'as raison, c'est vrai, c'est très vrai.
C'est un peu le même, si on peut faire le parallèle, il y a quelque chose de ça, mais ça se comprend parce qu'avant la SAQ ou la commission des liqueurs gérait non seulement la vente, mais aussi les lois. C'est comme c'est une même affaire. Alors, c'est ça, à un moment donné, ça a bougé. Ou est-ce qu'ils ont fait une espèce de distinction entre le commerce, l'alcool, puis les règlements? Puis là, ça a tout changé.
Et puis, au départ, là, Francis, de ce que j'ai compris, la commission des liqueurs, ce qui fait en sorte que ça connaît beaucoup de succès, c'est qu'ils profitent de la prohibition aussi du côté des États-Unis. Puis ils vendent non-stop, appelez ça au bootlegger, puis aux criminels américains, là.
Ben oui, parce que le Québec avait... Il y a eu deux référendums au Canada sur la prohibition, puis pour autrement dit, fermer l'accès à l'alcool, et il y a, partout au pays, ça votait oui pour la prohibition, donc pas d'alcool, mais le Québec, par deux référendums, a dit non, ça marche pas ça, on veut pas ça, on était déjà une espèce de société distincte, ce qui fait que c'est resté un marché ouvert, possible. Alors, les Américains, puis ailleurs aussi au pays, ils consommaient l'alcool qui transitait par ici. Donc, c'était la manne. C'est comme un peu le Loto-Québec puis l'Hydro-Québec de pour les gouvernements, parce qu'on faisait beaucoup d'argent en vendant l'alcool ailleurs.
Ouais,
c'est particulier, ça.
Exact.
Puis à un moment donné, quand ça s'est arrêté ailleurs, quand ils ont commencé à réouvrir les débits d'alcool, puis c'est devenu légal, ben là, la manne... La main a foiré.
Oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Puis ce qu'on constate aussi en regardant ton documentaire, je le rappelle, Francis, qui s'appelle 100 ans d'histoire, c'est que, un peu comme pour le côté culinaire, même un peu pour certains aspects politiques, l'Expo 67 a eu beaucoup d'impact également sur la consommation, sur ce qu'avaient envie de boire les Québécois.
Sur la curiosité.
Oui.
C'est comme l'ouverture sur le monde. Oui. C'est ça. Alors donc, et là, c'est clair et net parce que on le voit depuis 67, 70. Après ça, les habitudes, la curiosité, ce qui se buvait à l'époque, ça commençait à se voir. Donc, exemple, c'est la bière avant, on le sait, on buvait beaucoup de bière. Tout à coup, le vin est apparu. Puis là, oups, l'engouement pour le vin, évidemment, le vin rouge. Dans le documentaire, on voit la suite des choses. Il y a eu Porto, après ça, le vin blanc. Et là, maintenant, on le voit à quel point c'est fantastique. On en parle dans le documentaire. Toute la dimension de micro-brasserie, micro-distillerie. C'est l'explosion, le changement. Alors qu'il y a, à peu près 10 ans, là, quand on parlait de micro-distillerie, quand on parlait de gin, de vodka, tout ça, un, on n'en faisait pas. Mais deux, c'était comme considérer les boissons des grands-parents ou les boissons des gens plus âgés. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est les gens de 20 ans, 22 ans, 25 ans qui dégustent, qui découvrent, qui capotent là-dessus. Pas en volume, pas pour se saouler la gueule, mais pour déguster. C'est ça qui est fantastique aussi.
Oh oui.
La dégustation.
Ah non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu racontes.
Francis, je sais, tu sais, on le sait tous, en fait, là. Toi, t'es dans le, tout ce qui est bouffe, j'ai le goût de dire culture gourmande. Tu connais ça. De te plonger dans ce projet-là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a surpris qu'on va apprendre dans le documentaire?
Ce qui m'a surpris, il y a tellement de choses que j'en ferais 8 documentaires de plus.
Okay.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu présenter tellement, c'est une heure, c'est difficile de tout mettre, ok? Mais dans les découvertes que j'ai faites qui m'ont surpris, c'est que au 19e siècle, au Québec, le gouvernement subventionnait des producteurs pour faire du vin. Donc, on faisait du vin au 19e siècle et notre vin était, s'est retrouvé à un moment donné présenté à Paris, à l'Exposition universelle. Et là, les gens, les spécialistes du vin en France, à ce moment-là, ont écrit des articles en disant « De tous les vins provenant d'autres pays de la planète, les vins du Québec sont ceux qui ressemblent le plus aux vins français. »
Ah oui, on est en 1800-quelque, là.
Oui. Et là, je capote, parce que je fais comment ça se fait que ça a pris tant de temps, outre le climat, outre le fait que c'est difficile de faire pousser du raisin ici, on le sait, mais comment c'est-il que c'était déjà présent, qu'il y avait, même si les religieux, évidemment, faisaient tout pour pas qu'on consomme d'alcool, mais en même temps, les religieux ici faisaient pousser du raisin. C'est fascinant, là. C'est comme c'est un monde fou. Alors ça m'a bien, bien impressionné, parce que je ne savais pas ça. L'autre chose qui m'a impressionné, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré Jeff Moulton, on le voit dans le documentaire, puis on a parlé de la première microbrasserie, parce qu'au départ, c'était une microbrasserie. Moulton, on s'entend, là, ça n'a pas été une affaire gigantesque de départ. Puis M. Moulton, quand il est arrivé ici, c'était un orphelin. Puis là, quand il s'est installé, il a décidé de faire de la bière. Fait que là, ça a marché, on le sait très bien, mais en plus, ça, c'est des choses qui, je dirais, comme ce qu'on ne saura pas, mais je vous le dis de même, en plus de faire de la bière, il a commencé à faire du whisky.
Ah oui.
On ne faisait pas de whisky ici. Oui, puis il a fait du whisky ici, à Montréal, puis son whisky, il vendait à Londres.
Ah oui.
C'est comme une banque d'informations différentes, extraordinaires sur le bagage, mais je pense, moi, ce qui me fascine le plus, puis qui m'impressionne avant le documentaire et pendant le documentaire, puis tu l'as évoqué, Patrick, c'est la curiosité et le goût qui s'est développé.
Ah,
c'est comme merveilleux. Écoute, il y avait 350 produits disponibles à la Commission des Pierres en 1921. Il y en a aujourd'hui 15 000.
Ah oui, c'est complètement fou. Puis tu parles de ça, tu parles du goût des Québécois, puis ça continue d'évoluer à une vitesse folle. Je veux dire, tu sais comme moi, il y a 15-20 ans, on était sur les vins chiliens un peu plus robustes, etc.
Oui.
Là, on est rendu beaucoup plus léger. Comment ça?
Le Santa Rita, c'était bien populaire, ça, le vin chilien.
Le gâteau négro, etc.
Et
là, aujourd'hui, on est plus du côté des vins légers, la gamay, la pinot noir. Bref, ça évolue non-stop. T'sais. Mais puis je conclue avec ça, Francis Redé. Vous avez pas pu vous empêcher, puis c'est parfait parce que je l'ai vécu moi-même en Alberta cette année, d'avoir un petit uppercut du côté de la privatisation. Et c'est Gaétan Frigon, je pense, qui rappelle que le seul endroit où finalement, parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnes qui remettent en question le monopole de la SAQ ici au Québec.
Ça sera toujours ça.
Et ça sera toujours ça.
Il y aura toujours une remise en question, oui.
Et Gaétan Frigon qui rappelle que en Alberta, contrairement à ce qu'on pense, les vins sont souvent beaucoup plus chers que ce qu'on trouve ici au Québec.
Mais en même temps, je trouve ça intéressant que la question soit soulevée. Je trouve ça intéressant qu'on se la pose toujours la question parce qu'on toujours, si on se la pose, on s'assurera qu'elle fait son travail de façon exceptionnelle. Regarde, elle a été en retard, la SAQ, quand on y pense sur ce qui se passait avec l'évolution des micro-distilleries ici.
C'est vrai.
Ça a été long, puis il bouge, puis maintenant, il en redemande, OK? Donc, c'est normal qu'il y ait comme un délai, c'est normal que les Québécois soit critique parfois face à la SAQ, sauf que ultimement, on est vraiment chanceux d'avoir toute cette gamme là de produits, c'est fantastique. Puis là, clairement aujourd'hui là, ils sont à l'écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. Ils comprennent que la SAQ, ben la SAQ comprend qu'elle appartient aux gens d'ici, elle ne s'appartient pas à elle-même, puis elle est au service de nous, consommateurs. Puis je pense que les gens qui y travaillent font une maudite belle job.
Francis Redé, je le rappelle, ça s'appelle La SAQ, 100 ans d'histoire. Ça va être diffusé à Hysteria samedi le 4 septembre prochain à 21h. C'est toujours plaisant de te parler, Francis.
Ah, absolument.
T'es bien fin.
Absolument.
T'es bien gentil, je suis bien content que tu aies
appelé. Puis merci, moi, je serais content, puis bonjour à tout le monde, puis bonne fin d'été.
Merci, à toi aussi. Parfait, bye-bye.